Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord, pas sur tout encore, mais un cap décisif a été franchi selon Michel Barnier, avec cet accord sur les termes de la transition post-Brexit jusqu'à fin 2020. Vladimir Poutine change de cap, à peine réélu, le président russe annonce une baisse des dépenses militaires. Nous analyserons son discours avec Claude Bruyot. Les partenaires sociaux réunis au ministère du Travail, le gouvernement leur présente ses intentions concernant la gouvernance du régime d'assurance chômage ainsi que les sanctions prévues pour les chômeurs ne remplissant pas leurs obligations. Quand l'industrie du tabac prétend préparer un monde sans fumée, Tara Schlegel s'est intéressée à l'action d'une fondation américaine financée à 100% par le cigarettier Philip Morris. Ils n'ont pas ménagé leur peine. Les négociateurs européens et britanniques ont travaillé intensément ces derniers jours et ces dernières nuits. Et ce matin, enfin, Michel Barnier et David Davis sont parvenus à un accord. Le texte prévoit une période de transition de 21 mois avant la sortie complète du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 31 décembre 2020. Mais s'il y a consensus sur la question financière et les droits des citoyens, la question de l'Irlande du Nord n'est pas encore résolue. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Les deux points principaux de l'accord de ce matin permettront d'une part de résoudre la question des engagements financiers que le Royaume-Uni devra honorer pour acter sa sortie définitive des budgets européens, et d'autre part les garanties à long terme pour les droits dont bénéficieront les citoyens qui continueront à résider de l'un ou de l'autre côté. Il y a aussi un accord sur les dates de la période de transition demandée par le gouvernement britannique pour assurer une sortie en douceur. Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne.
Pendant cette période, le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'Union européenne, simplement parce qu'il ne sera plus un État membre le 30 mars 2019. Il conservera néanmoins tous les avantages et les bénéfices du marché unique, de l'union douanière et des politiques européennes, et devra donc aussi respecter toutes les règles européennes au même titre que les États membres.
Pendant cette période de transition, Européens et Britanniques devront finaliser les termes de leurs futures relations. Elles devraient prendre la forme d'un simple accord de libre-échange comme celui avec le Canada. Pour l'Irlande du Nord, si aucune solution nouvelle n'est trouvée, cette partie du Royaume-Uni pourrait rester dans le marché unique européen et l'union douanière. Tous ces points devront encore être validés vendredi lors du sommet européen à venir.
Pierre Benazet, à Bruxelles, l'Union européenne prend acte de la reconduction de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie. Il revendique une large victoire avec 76,7% des suffrages dès le premier tour de scrutin. Mais elle déplore les violations signalées par les observateurs de l'OSCE pendant l'élection présidentielle russe. L'Union européenne souligne notamment le manque de concurrence et les pressions sur les opposants et demande à Moscou d'y remédier. Cette requête laisse Vladimir Poutine de marbre, le président russe qui fixe maintenant le cap de son nouveau mandat. Après s'être vanté d'avoir de nouvelles armes invincibles au début du mois, il affirme maintenant, Claude Bruyot, qu'il va diminuer ses dépenses militaires.
Alors, au chapitre des grands équilibres, tout dépendra bien sûr de la volonté réelle de Vladimir Poutine de réorienter l'usage de la manne pétrolière et gazière vers le financement des réformes les plus urgentes, car l'annonce du président russe, qui consiste donc à affirmer que les dépenses militaires vont se stabiliser, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout un pan de l'industrie, dont la santé dépend surtout des commandes publiques. Au cœur des réformes sociales nécessaires au redressement économique de la Russie, le système des retraites, par exemple, à refonder, sera d'une importance cruciale, car même si les pensions sont à des niveaux très bas, l'âge de la retraite, 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, entraîne chaque année le système vers davantage de déséquilibre. L'aile libérale du Kremlin prône une augmentation à 63 ans de l'âge du départ à la retraite, tout en valorisant les pensions les plus faibles. L'autre grand chantier va consister à stopper la baisse de la population en accompagnant davantage les familles avec une véritable politique nataliste. La récente annonce d'une aide financière dès le premier enfant pour les couples les plus démunis est un début timide, mais réel.
Claude Bruyot en direct de Moscou. Bachar al-Assad salue les remarquables performances de Vladimir Poutine. Le président syrien juge logique la victoire de son allié et qualifie d'exceptionnelle la confiance du peuple russe à son égard. Bachar al-Assad, qui s'est filmé hier au volant de sa voiture dans la Ghouta orientale, se félicitant des derniers succès de ses troupes. Depuis, au moins 20 civils ont été tués à Douma, la plus grande ville de la Ghouta orientale encore tenue par les rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils ont été victimes de raids aériens et de tirs d'artillerie du régime. La Turquie, qui a pris le contrôle hier de la ville syrienne d'Afrin, annonce qu'elle va élargir son offensive dans le nord de la Syrie. Nous avons laissé derrière nous l'étape la plus importante de l'opération Rameau d'Olivier, déclare le président Recep Tayyip Erdogan. Nous allons poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor. La détermination turque est donc intacte, Eric Biegala.
Oui, en annonçant ce lundi que les forces turques et leurs supplétifs syriens allaient lancer de futures offensives sur successivement Manbij, Kobané, Talabiyad, Ras al-Ain et Kamishli, c'est en fait toute la zone frontalière du nord syrien que Recep Tayyip Erdogan se propose maintenant d'attaquer. Une région de plus de 350 km d'ouest en est, l'autre région avec Afrin très majoritairement kurde en Syrie et qui est pour le moment quasi exclusivement contrôlée par les forces kurdes des YPG. Le président turc se dit d'ailleurs dans son adresse de ce lundi prêt à pousser encore plus loin, plus à l'est, jusqu'en Irak pour y chasser les Kurdes de la région du mont Sinjar, où quelques éléments des YPG et du PKK se trouvent toujours. Sur le papier, pareille offensive d'envergure semble relativement simple pour la Turquie. Toutes les villes d'importance de la région, celles mentionnées par Erdogan, se trouvent en fait sur la frontière turco-syrienne. Il suffirait à Ankara de positionner du côté turc de la frontière son artillerie et ses chars pour y pilonner les localités se trouvant juste de l'autre côté. Paradoxalement, c'est sans doute dans la première localité mentionnée par Erdogan, Manbij, que les choses risquent d'être beaucoup plus délicates. Manbij, reprise à l'État islamique par les YPG à l'été 2016, n'est pas à l'origine une localité majoritairement kurde, mais ce sont bien des forces militaires kurdes qui la contrôlent aujourd'hui. Surtout, à la différence d'Afrin, les Kurdes sont à Manbij, épaulés par des forces spéciales occidentales, il y aurait environ 2000 soldats américains sur place, des forces spéciales qui patrouillent ostensiblement la ligne de séparation avec la Turquie, histoire de bien montrer à Ankara qu'une offensive sur ce secteur viserait aussi bien les troupes américaines, lesquelles pourraient bien à leur tour répondre au feu par le feu. Bien sûr, on a du mal à imaginer les Américains engager le combat contre les Turcs, un allié de l'OTAN, et ce pour défendre Manbij ou les YPG kurdes, mais il n'est pas certain non plus qu'Erdogan n'en prenne pas le risque en attaquant d'abord Manbij.
Eric Biegala, le représentant en France du Kurdistan syrien, Khaled Issa, affirme qu'un véritable nettoyage ethnique est en cours à Afrin et il reproche aux grandes puissances de rester spectatrices d'une agression injustifiée et illégale. Voilà un dossier bien embarrassant pour la diplomatie française en Israël. Un Français travaillant pour le consulat général de France à Jérusalem a été inculpé en Israël pour avoir convoyé clandestinement des armes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Romain Franck, 23 ans, a comparu en milieu de journée devant le tribunal de Beersheba. Il est soupçonné d'avoir utilisé un véhicule appartenant au consulat pour transporter 70 pistolets et 2 fusils d'assaut entre la bande de Gaza donc et la Cisjordanie. Le compte-rendu d'audience d'Étienne Monin.
Dans la salle d'audience, le jeune Français entre en levant le col kaki de sa veste de détenu. Il se protège des caméramans et des photographes qui entourent le box. Son attitude contraste avec celle des Palestiniens à ses côtés qui saluent leurs proches installés dans la salle. Le chauffeur du consulat général est poursuivi pour trafic d'armes. Les charges terroristes n'ont pas été retenues. Il est soupçonné par les enquêteurs israéliens d'avoir convoyé une quantité importante d'armes pour le compte de trafiquants palestiniens. D'après les services de renseignement, le jeune Français a reconnu 5 voyages depuis la bande de Gaza dans un véhicule officiel en mission couvert par les plaques diplomatiques du véhicule. L'enquête fait état de 70 armes de poing et de 2 fusils d'assaut transportés. Le contact du chauffeur était un employé du centre culturel français à Gaza. La motivation était exclusivement financière d'après les conclusions des enquêteurs. Les Israéliens manient aujourd'hui le chaud et le froid dans les réactions. Le ministère des Affaires étrangères estime qu'il n'y a pas de conséquences diplomatiques. L'armée en Cisjordanie demande plus de contrôle sur les actions humanitaires.
Ils sont réunis depuis maintenant 1h30 au ministère du Travail. Les partenaires sociaux se font expliquer les arbitrages du gouvernement sur la gouvernance de l'UNEDIC et sur les contrôles des demandeurs d'emploi, deux volets de la réforme de l'assurance chômage. Bénédicte Robin, vous attendez l'issue de cette réunion et ce qui préoccupe le plus les syndicats, c'est le durcissement des sanctions contre les demandeurs d'emploi.
Oui, là, en premier lieu, c'est bien la question de l'offre raisonnable d'emploi qui inquiète à l'entrée. Dans le ministère, tout à l'heure, les délégués FO et CGT ont eu la même phrase. Ça n'a jamais fonctionné. Comment décider qu'une offre est raisonnable et le demandeur d'emploi déraisonnable en ne l'acceptant pas? Aujourd'hui, il y a bien une définition qui encadre cette offre dite raisonnable, qui correspond aux qualifications des chômeurs et du chômeur et donc qu'il doit accepter, mais dont l'exigence baisse à mesure du temps passé au chômage. Mais ce n'est jamais vraiment appliqué dans la réalité. Qu'en sera-t-il demain? Est-ce qu'on va redéfinir ce qu'est une offre raisonnable et surtout automatiser des sanctions en cas de refus. La CGT y est clairement opposée. Pour elle, le nœud reste le manque d'agents Pôle emploi pour suivre les dossiers afin d'adapter les réponses, qu'elles soient personnalisées, car sinon la dérive, la crainte, ce serait de forcer les demandeurs d'emploi à accepter des postes dégradés en CDD ou alors payer beaucoup moins que leurs précédents postes à temps partiel. Les syndicats n'y sont pas favorables. Pour eux, il faut savoir faire confiance aux agents de Pôle emploi pour juger. Par ailleurs, la redéfinition de l'échelle des sanctions en cas d'absence à un rendez-vous pour un chômeur qui ne chercherait pas activement du travail reste encore assez vague. Le gouvernement veut que ces sanctions soient mieux proportionnées. Quelqu'un qui ne cherche pas de travail devrait être plus lourdement sanctionné que quelqu'un qui manque un rendez-vous. C'est parfois l'inverse aujourd'hui. Le gouvernement compte donc intensifier ses contrôles, sans doute y dédier plus d'agents qu'aujourd'hui. Mais il ne faut pas penser que tous les chômeurs sont des feignants et des fraudeurs, répondent les syndicats qui continuaient en entrant tout à l'heure de se demander dans quelle mesure il s'agit de concertation et de discussion avec le gouvernement ou bien d'une simple présentation de mesures déjà décidées.
Bénédicte Robin en direct du ministère du Travail avec Fabien Gosset à la technique. 12 formations de gauche allant d'Europe Écologie Les Verts à la France Insoumise signent un appel unitaire en soutien à la mobilisation à la SNCF et dans les services publics ce jeudi. Ils reprochent à Emmanuel Macron d'accabler les cheminots, les faisant passer pour des privilégiés qui, comme les retraités, les étudiants ou les chômeurs, ruineraient la France. Ils restent vigilants et tiennent à le faire savoir. Quelques centaines d'opposants à l'ancien projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se sont rassemblés devant la préfecture de Nantes au moment où se tenait le premier comité de pilotage sur l'avenir agricole du territoire. Les manifestants sont venus réaffirmer leur souhait d'une gestion collective des terres de la ZAD. Véronique Ruberotte, vous êtes à Nantes pour France Culture. Qu'est-ce qui s'est dit à ce comité de pilotage ?
Alors la réunion entre élus, syndicats agricoles et associations n'aura duré que 2 petites heures. Satisfaction en tout cas à la sortie de la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein.
Très bien, dans une ambiance apaisée comme je le souhaitais. Surtout que les gens autour de la table n'ont pas tous la même vision de l'avenir de ce territoire. Mais ils sont restés jusqu'au bout de l'ordre du jour. Donc on a tous été d'accord pour dire qu'il fallait du temps. Bon, il y a des conflits d'usage qu'on réglera, pas tout de suite, mais on les réglera. Les agriculteurs qui ont été expropriés récupéreront leurs terres. On va faire un diagnostic précis de qui fait quoi sur le territoire. Le diagnostic ne sera pas prêt avant l'automne, avec une agriculture, des projets agricoles au sens large.
Et les zadistes ?
Bon, il faut qu'ils aient un projet qui touche quelque part l'agriculture, au sens le plus large. Ceux qui n'ont aucun projet, ça posera en effet une difficulté. Ils le savent.
Alors certains sur la ZAD ont déjà commencé à régulariser leur situation. Un boulanger, hein, par exemple, un exemple à suivre. Pour tous ceux qui veulent rester, ça ne se discute pas pour Jacques Lemaître. C'est le président de la Chambre d'agriculture. Pour lui, cette première prise de contact, en tout cas, n'a pas permis d'aller bien loin.
Ça a permis d'exposer l'ensemble des problèmes sur la zone. Maintenant, tout est à faire. Diagnostic, la définition des projets, l'arbitrage après de la rétribution des terres en fonction des projets. Donc tout reste à faire. La préfète répète que l'état de droit doit s'exprimer et s'exercer sur la zone et que les occupants historiques doivent retrouver leurs terres à plus forte raison à une période où les travaux vont commencer pour le printemps.
Elle vous paraît optimiste ?
Je ne sais pas quelle est la capacité de la préfète de réaliser cette affaire d'occupation légale. En tout cas, nous, c'est ce que nous réclamons.
À l'extérieur, alors autour d'une quinzaine de tracteurs et de moutons, certains zadistes qui n'étaient pas conviés à ce premier comité de pilotage, car n'étant pas prêts, selon la préfète, à discuter avec d'autres de l'avenir de la ZAD, eh bien ces zadistes avaient au moins une demande en commun avec la représentante de l'État, avoir du temps. Camille.
Nous, on fait partie de ceux qui, avec l'ensemble du mouvement, prônent le fait qu'on nous donne du temps pour penser ensemble les cadres qui demain permettront de pérenniser à la fois les habitats et les projets agricoles que l'on mène. Et effectivement, pour nous, maintenir une très forte menace d'expulsion et chercher à faire signer des gens individuellement pour diviser le mouvement et opérer une logique de tri, c'est quelque chose qu'on refuse catégoriquement. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à un dialogue sur de nouvelles bases pour vraiment ensemble trouver une solution apaisée avec la préfecture.
Alors, prochain comité le 6 juin prochain. D'ici là, la préfète a redit que tous ceux qui ne joueraient pas le jeu de rentrer dans la légalité seraient expulsés à partir du 31 mars. Demain, mardi, mercredi aussi, le secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, Sébastien Lecornu, sera sur place à Nantes. Il évoquera toutes ces questions avec les différents protagonistes, zadistes compris.
Véronique Rebert, en direct de Nantes. Le procès de trois hommes partis en Syrie s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes. L'un des prévenus que l'on suppose mort en Syrie et jugé par défaut. Le principal accusé, Toufik Boualag, était parti en Syrie dès décembre 2013. Florence Thiom, vous avez suivi cette première journée d'audience.
Je voudrais juste dire que j'ai reconnu les faits, je les assume, maintenant je regarde devant moi. C'est sans doute la phrase la plus longue qu'Erwan Guillard va prononcer durant tout son interrogatoire de personnalité. Grand, mince, les cheveux courts, un visage fin, aux traits assez doux, mais mangé par une barbe noire, très longue et très fournie, il répond par monosyllabes, avec quelques rires gênés, presque enfantins, et beaucoup de « je ne sais pas » aux questions du président. « Vous avez mal vécu la séparation de vos parents ? C'est pas le meilleur moment de ma vie. » Il avait 10 ans, et le petit garçon premier de sa classe enchaîne les mauvais résultats, quitte le collège pour un BEP de boulangerie qu'il n'obtiendra pas. « C'est quelque chose qui ne me plaisait pas », dit-il simplement, un peu buté. Même explication pour son départ du régiment de parachutistes de Pamiers, où il s'engage en juin 2009. « J'aimais le sport et l'action, mais pas la mentalité. C'était des alcooliques, des racistes. Vous aviez pourtant de bons résultats au lancer de grenades, intervient l'avocat général. 20 sur 20 au grimper à la corde, 60 sur 80 au parcours d'obstacles. Il aurait dû partir en Guyane ou en Afghanistan. Au lieu de cela, 3 ans plus tard, Erwan Guillard laisse sa femme et ses 2 enfants derrière lui pour rejoindre la Syrie où il va rester 10 mois. Il admet avoir participé à des combats sur zone dans les rangs du groupe État islamique, pris des photos d'exactions particulièrement violentes. On y reviendra plus tard sur ces faits qu'il assume donc, et pour lesquels il risque 20 ans de réclusion criminelle.
Et le procès doit s'achever à la fin de la semaine. La Fondation pour un monde sans fumée rend publique une étude menée sur 17 000 fumeurs dans 13 pays différents. Alors que le tabac tue 70 000 personnes en France chaque année, 700 000 à l'échelle de l'Union européenne, vous vous êtes penché, Tara Schlegel, sur l'étude de cette fondation américaine dans l'espoir d'y trouver des chiffres intéressants. Vous avez été plutôt déçu et ce qui est troublant, c'est que cette fondation est financée exclusivement par Philip Morris, l'un des géants de l'industrie du tabac, Tara.
Oui Aurélie, il faut imaginer cette conférence de presse mondiale qui s'est tenue tout à l'heure en direct sur Internet. Un ancien journaliste introduit le patron de la Fondation pour un monde sans fumée. Alors vous avez entendu son nom, voici maintenant son profil par un homme qui lui est au-dessus de tout soupçon, le pneumologue Albert Hirsch qui a été pendant 20 ans chef de service à l'hôpital Saint-Louis et qui est aujourd'hui administrateur de la Ligue contre le cancer.
Alors Derek Yak, moi je l'ai bien connu, il était responsable de Tobacco Free Initiative, donc c'était le programme anti-tabac de l'OMS dans les années 2000. Donc c'était, il était top niveau sur la lutte contre le tabac.
Mais
authentiquement, oui, indiscutablement. Parce que ce programme a été à l'origine de la convention de l'OMS qui permet à l'OMS de passer des traités contraignants que la France a ratifiés en 2020. Mais en fait, cette convention, elle est faite surtout pour les pays en voie de développement où il y a très peu de législation, enfin de contrôle du tabac. Et bien, cet homme tout à fait estimable à l'époque, ben, il a été acheté. Maintenant, il est à la tête d'une fondation qui préconise un monde sans fumée, je crois, la fondation a touché de Philip Morris $1 milliard. Donc c'est pas mal, hein.
Quel est l'objectif, par exemple, d'une fondation comme la Fondation pour un monde sans fumée? Parce que quand on regarde leur site internet, bon, aujourd'hui ils publient des données, mais ça ne parle que des dangers de la cigarette. Il y a des témoignages de gens qui essayent d'arrêter de fumer. Enfin, ça a l'air d'être vraiment un outil contre la cigarette. Et c'est financé par Philip Morris.
C'est de la manipulation. Ils ont toujours fait ça, c'est-à-dire que c'est un double langage. Ils vont se charger effectivement de la prévention, de l'arrêt du tabac, mais en attendant, ils continuent à investir des marchés de pays qui ont une politique anti-tabac qui est embryonnaire.
Mais ils l'écrivent qu'en Asie.
Mais oui, partout dans le monde. Et dans nos pays, c'est les populations les plus vulnérables. Il faut savoir que le taux de tabagisme en France, chez les chômeurs, et le double des taux de tabagisme de ceux qui ont la chance d'avoir un emploi.
Alors $1 milliard pour cette fondation censée lutter contre le tabac, mais financée par le numéro 1 mondial. Et Philip Morris ne s'arrête pas là, assure Albert Hirsch. La firme s'attaque aussi aux décideurs. Comment?
Eh bien, ils achètent. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ils achètent tout le monde qui veut bien se laisser acheter. Alors ça commence par les institutions sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé a été infiltrée largement par l'industrie de l'art. La Commission européenne, qui ne se préoccupe pas de santé puisque c'est la subsidiarité des États, est achetée, infiltrée par Philip Morris. La Commission européenne a touché officiellement, je ne sais plus la somme, mais
plus de 2 milliards
d'euros de l'industrie tabac, notamment de Philip Morris. Il y a eu des accords, il y a eu un commissaire européen qui a été débarqué par l'industrie du tabac, sous Barroso, enfin il y a une infiltration tout à fait considérable.
Alors tout à l'heure aux États-Unis, 4 experts sont venus rejoindre Derek Yak pour parler des statistiques. Ces 4 personnes sont en fait liées à l'industrie du vapotage, car il faut savoir que désormais Philip Morris a lancé, bon il y a quelques mois déjà, Ikbos, qui est une e-cigarette, la première à contenir non seulement de la nicotine, mais aussi du tabac, somme toute aussi dangereuse que la cigarette, même si on s'en rend pas tout à fait compte.
Tara Schlegel, 9 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange neige-verglas jusqu'à demain 10h. Demain, il fera plus sec avec un ciel variable sur la moitié nord, un temps plus clément dans le sud et il fera toujours froid. Minimum moins 5 degrés dans le nord-est, 2 à 9 dans le sud-est. Les maximales varieront entre 3 et 10 degrés jusqu'à 13 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.